puissions jouir de toutes les bénédictions que tu voudrais nous donner. Car quand tu dis que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es là au milieu d'eux, ce n'est pas pour apporter la division dans l'assemblée entre frères ou entre sœurs. Tu veux qu'il y ait une unité complète et que dans ta grâce, tu nous restaures malgré toutes nos erreurs et que tu nous conduises dans toute la vérité. Et nous savons que cette vérité, c'est Jésus. Et nous savons que nous n'avons pas à choisir entre Jésus et quelqu'un d'autre, mais que c'est toi en chacun de nous qui dois te manifester pour ta seule gloire. Instruis-nous maintenant par ton esprit. Ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs, et que nous puissions recevoir par ta grâce la bénédiction que nous attendons de toi aujourd'hui. Et dissipe ces mots qui se manifestent un peu à travers le camp et ne permet pas que nous devenions psychologiquement malades. Pour ta seule gloire. Amen. Alors, vous ouvrez vos Bibles, je pense que vous les avez tous, car comme nous le disons souvent, vous écoutez et puis en même temps, vous lisez. Alors ça entre par vos yeux et par vos oreilles. Et aujourd'hui, nous arrivons ce matin au second grand sujet de cet épître, qui est l'enseignement de la grâce quant à notre marche et à notre conduite dans ce monde. Nous avons à étudier les versets 11 à 15 du chapitre 2e. Comme ça, vous voyez comment on peut étudier lentement, mais profondément, ces textes. Nous les lisons. C'est le sujet de la manifestation de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. L'impiété, c'est une vie sans Dieu. Au désir de ce monde, aux convoitises du monde. Et nous allons les rappeler, ces convoitises du monde. C'est la grâce qui nous enseigne à renoncer aux convoitises du monde. Ce n'est plus une loi. Et à vivre dans le siècle présent, c'est-à-dire aujourd'hui, d'une manière sensée ou sage, juste et pieuse, en attendant la bienheureuse espérance. Et faites attention, parce que si vous avez la traduction de Kuhn où il y a beaucoup d'erreurs, je suis obligé de vous le dire, il a enlevé le « et » la manifestation, et il met « en attendant la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire ». Alors là, ça peut vous troubler, parce qu'il y a deux choses. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation. J'espère que vous avez le « et », hein. « Et », il y a deux choses, il y a deux éléments. Tandis que quand vous n'en faites qu'un, eh bien vous supprimez tout ce que on vous a enseigné, parce que ces messieurs estiment que au retour du Seigneur, il y a son retour en gloire où tout œil le voit en même temps. Et ce n'est pas vrai. Ce n'est pas cela. Et c'est bien triste qu'à son âge, c'est un de mes amis pourtant, eh bien, on arrive à fausser les choses. Un homme qui s'y connaît bien dans les traductions m'a dit, je réécris, mais ça ne sert à rien. C'est la fin des temps. Et la séduction, elle touche aussi les croyants. Et les croyants qui ont écrit des bonnes choses avant et qui finissent par troubler les âmes et mettre la division dans beaucoup de communautés. Alors, souvenez-vous de cela. Nous relisons le verset. « En attendant la bienheureuse espérance », la traduction révisée de second le fait justement, les traductions catholiques aussi, « En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. » Verset 14. « Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Ainsi dois-tu parler, exhorter et reprendre avec une pleine autorité que personne ne te méprise. Alors, mes amis, les versets précédents, versets 1 à 10, nous ont montré hier ce que Tite avait à enseigner à ceux et celles qui formaient l'Église chrétienne en Crète. Il y avait dans cette Église des vieillards, tout seuls, qui faisait une vieille église? Pas du tout. Dans l'église même, la même église, il y avait des vieillards. Comme dans une famille, il y a des vieillards. Ou bien non, on vous met à l'asile. Tous les vieillards à l'asile, parce qu'on ne les met pas dans l'église. Dans la famille, il y avait des vieillards. Dans l'église, il y avait des vieillards. Il y avait des femmes âgées. Qu'est-ce qu'on a besoin de femmes âgées? Oui, vous en avez besoin. Dans la même église, il y avait des femmes âgées. Et forcément, il y avait aussi des jeunes femmes. Pour qu'il y ait un jour des femmes âgées, il faut qu'elles aient été jeunes une fois. Il y avait des jeunes femmes. Il y avait des jeunes gens. Vous les avez mentionnés, hein? Et puis, il y avait des esclaves et des maîtres, c'est-à-dire des employés et des patrons, aujourd'hui. Hein. C'est comme ça qu'on les appelle, puisque, par la grâce de Dieu, il n'y a plus directement des esclaves. Mais il y a toujours des gens qui doivent obéir et se soumettre à une autorité quand on est dans une maison qui est dirigée par quelqu'un. Mais tout cela se trouvait dans la même église. L'église était une. Or, on a eu cette tendance de dire, ben maintenant, il faut une église pour les jeunes. Où trouvez-vous ça dans l'Écriture? Où trouvez-vous ça dans l'Ancien Testament? Dans l'Ancien Testament, quand le peuple d'Israël devait se rassembler, il se rassemblait avec qui? Avec les enfants qui écoutaient. Et c'était pas une petite réunion, hein. Ça durait des fois des jours. Mais on avait les enfants avec. Et les enfants entendaient les choses. Et vous savez, ils comprennent beaucoup plus que vous ne le pensez. Alors, souvenez-vous de cela. Retrouvez l'Église telle qu'elle est, où on peut s'entendre avec des vieillards, qui peuvent comprendre les jeunes. C'est vrai qu'il y a eu des vieillards qui ne comprenaient pas la jeunesse et qui empêchaient la jeunesse de se développer. Mais là où les vieillards ont affaire avec le Seigneur, eh bien, la jeunesse est heureuse et peut se développer et ira vers les vieillards pour demander quoi ? Des conseils. Parce que, et moi j'étais très frappé, j'avais les cheveux très noirs autrefois, hein. Et puis pendant plus de 50 ans, 60 ans, j'ai fait des camps, et quand j'arrive dans un camp où l'on m'a connu avec des cheveux blancs, et que maintenant, ces gens que j'ai enseignés quand ils étaient jeunes sont des grands-pères. Puis ils amènent leurs enfants, parce qu'ils disent, ce que nous avons reçu autrefois, nous voudrions que nos enfants en bénéficient aussi. Et ils disent ceci, ce qui nous édifie, c'est de voir que vous avez 80 ans maintenant, et que vous tenez encore. Bon, pourquoi est-ce que je tiendrai pas? Quand il est dit, ce matin je relisais ce psaume 92 dont je vous ai dit une partie, il renouvelle sa force comme le buffle. Bon. Pourquoi je ne saisirai pas ça pour moi? Puisqu'il est dit qu'il peut renouveler notre force comme celle du buffle. Ben, continuons, ben, je serai un buffle, pourquoi pas, hein? Pourvu que je sois dans le chemin du Seigneur. C'est cela qui est merveilleux. Manger la parole, c'est bien l'expression de Jérémie, qui est le prophète de ma vocation. Il dit, tes paroles se sont-elles trouvées? Je les ai dévorées même, dévorées, n'est-ce pas? Avec appétit, je les ai dévorées. Elles ont fait l'allégresse et la joie de mon cœur. Il n'est pas dit... Elles m'ont donné une maladie. Hein. La parole de Dieu nous fortifie. Alors, donc, dans l'Église primitive, il y avait les vieux, les jeunes, les hommes, les femmes. C'était pas une Église uniquement pour les hommes. Ce n'était pas une église uniquement pour les femmes. Or, vous savez que maintenant, on a même mis une femme sur la croix, les féministes, parce qu'ils ne pouvaient pas accepter que ce soit qu'un homme, Jésus. Alors, on met une femme. Puis vous avez ça à la télévision, vous avez ça à toutes... Puis vos enfants voient des choses comme cela. C'est pourquoi... Nous avons eu encore à cœur, une fois, de faire un camp pour reprendre toutes ces choses et nous dire, est-ce que c'était seulement pour le temps passé ou est-ce que c'est encore pour aujourd'hui? Aujourd'hui, ça va mal partout, dans tous les milieux. Et on cherche les milieux. Je me souviens d'un homme en France qui était arrivé en Alsace. Il avait mis... Une annonce dans le journal. Je cherche mes frères. Il a eu des réponses. Je cherche mes frères. Il ne savait pas où aller. Où sont-ils les frères? Ceux qui veulent se retrouver en Jésus-Christ, dans ce lien béni et fraternel, où on n'est pas dominé par un homme, mais où tous ensemble... Le Seigneur, par son esprit, formant nos affections, nous unit dans le Seigneur. Alors, vous avez donc ce que nous venons de rappeler dans les versets précédents. Et alors, nous avons vu ce qui doit caractériser les vieillards, ce qui doit caractériser les femmes âgées, ce qui doit caractériser les jeunes femmes, aimer leur mari, leurs enfants, ce qu'elles doivent être, et comment Tite lui-même devait être, pour les jeunes gens qu'il devait enseigner, qu'est-ce qu'il devait être? Un modèle. Il ne devait pas rechercher des modèles chez les autres, mais être lui-même un modèle, et le modèle par excellence. auquel Tite devait regarder, c'était qui? Comment? C'était Jésus. C'était Jésus. C'est lui qui est notre modèle. Est-ce que Jésus faisait ceci? Est-ce que Jésus ferait cela? Quand vous pensez à cela, il y a une foule de choses qui vous sont manifestement montrées. Et alors, quand il est dit que la prédication de Tite devait être une prédication sage, et que il devait être comment est-ce qu'il est dit ici? Il y a quelquefois des mots un peu différents. Grave. Vous savez qu'il y a des prédicateurs qui voudraient tellement être bien écoutés et avoir l'oreille du public, ils cherchent à faire une prédication qui plaise. Par exemple, il y a des jeunes, on veut plaire aux jeunes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et puis, on calcule qu'après tant de minutes, il faudrait détendre l'auditoire. Alors, on dit une stupidité pour faire rire le monde. Pour détendre. Ben, tout cela, ça s'appelle quoi? C'est charnel. Car si vous êtes dans la dépendance du Saint-Esprit, qui doit enseigner des choses qui sont profondes, des choses qui doivent toucher vos cœurs, eh bien, votre premier auditeur, c'est qui? C'est le Père. Hein? Et puis, il écoute ce que vous dites de son Fils. Comment pouvons-nous parler de son Fils? Bien, nous pouvons en parler avec joie, c'est vrai, mais la joie du Seigneur, la joie de la contemplation du Seigneur, ce que nous voyons en lui, c'est quelque chose de merveilleux. Mais quand on vient nous dire que le verset le plus court de la Bible, c'est lequel? Jésus pleura, hein? C'est le verset le plus court de la Bible. Alors, on tire de ce verset que Jésus, il n'a su que pleurer. Il a pleuré, c'est vrai. Mais est-ce que vous voyez Jésus toujours en pleurs? Et je l'ai dit souvent, la preuve que Jésus était accueillant pour les âmes, c'est que les enfants venaient à lui. Hein? Quand il disait, laissez venir à moi les petits-enfants, il leur faisait une tête épouvantable. Qu'il leur faisait peur? Non. C'était le sourire, c'était l'accueil, c'était qu'il les prenait dans ses bras, qu'il les pressait sur son cœur. Je regardais certaines jeunes filles ici qui ont l'air de beaucoup aimer les enfants. Quand elles portent un enfant, c'est tellement beau de les voir, hein? Elles les pressent sur leur cœur. C'est pas la mère, mais pourtant, ça fait comme ça. C'est un enfant. Eh bien, voilà Jésus. Jésus, il est vivable. Jésus, il est ouvert. Et il n'y a pas besoin faire un tas de choses pour rendre la parole agréable. Elle nous dit des choses pénibles, peut-être, parce qu'elle nous dit la vérité à notre sujet, mais elle ne nous laisse pas dans la culpabilité. Elle nous montre ensuite Jésus qui nous a sauvés. Donc, vous êtes réconcilié avec ce mot grave. Il faut parler en toute gravité parce que tout doit nous aimer, tout doit nous conduire à craindre le Seigneur. Nous devons avoir une crainte respectueuse du Seigneur. J'ai entendu un prédicateur qui se vantait, il était à Bruxelles, et il me disait, vous savez, moi, si je le veux, je peux faire pisser les yeux de mes auditeurs à tel point que le plancher soit mouillé. Bon. Si vous pissez par vos yeux, parce que vous entendez une prédication qui doit vous émouvoir, Bon, vous savez, ce prédicateur, mais il est mort maintenant. Parce qu'on meurt, après avoir dit de toutes sortes de sottises. Mais c'était un orateur. Mais il pouvait employer ses dons d'orateur pour émouvoir tellement qu'il savait très bien qu'il pourrait faire pleurer son auditoire. Il n'y a pas besoin d'aller dans une réunion pour pleurer. Vous allez au cinéma, puis on vous dit de prendre un mouchoir à l'avance. Parce qu'au cinéma, vous allez être tellement ému que vous allez pleurer. Oh. Et alors maintenant, ben, vous faites la même chose avec les réunions. On a un bon prédicateur qui peut nous faire pleurer. Il peut faire pisser nos yeux. Ben, il est fort. Hein. Nous sommes dans un monde pervers. Et nous devons vivre vraiment dans la crainte du Seigneur. Parce que vous savez, vous croyez que le Seigneur n'entend pas ce qu'on dit? Il entend. Et un jour, nous devrons répondre, il a dit, de toutes les paroles que nous avons. Dites, c'est dans la parole ou ce n'est pas dans la parole, ça? C'est dans Matthieu, chapitre 12. Hein, et nous devrons répondre de toutes les paroles que nous avons dites. Alors, veillons à nos paroles. Et si nous prétendons que c'est l'évangile, la bonne doctrine, ben dans la bonne doctrine, il y a des choses qui ne se disent pas. Hein. Et c'est là ce que nous comprenons. Alors, nous arrivons maintenant à cet enseignement de la grâce. Je dis encore une chose. Il y en a qui veulent tellement pouvoir dire qu'ils ont eu tant de conversions à telle réunion que quand ils font un appel, ils veulent absolument que des gens s'avancent. Absolument. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'avancer. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir un conseiller, c'est pas ça. Mais on ne peut pas forcer les choses. Parce que quand vous essayez de forcer les choses, ça ne tient pas après. Bon, il y a des gens qui sont émus. Puis on vous dit, ben, si vous vous avancez, vous aurez une grâce spéciale. Alors pourquoi est-ce qu'on ne s'avancerait pas? Ou bien on vous a aussi dit que si vous preniez la communion, la Sainte Cène, ça vous aiderait, etc. Mais ce n'est pas cela. Parce que si on prend la communion d'une façon qui n'est pas agréable au Seigneur, parce que dans la semaine, nous n'avons pas suivi le Seigneur, mais alors le dimanche, alors nous oublions tout, et puis nous prenons la Sainte Cène, bien, si dans la semaine nous avons été à la table des démons, là où le diable nourrit les âmes de toutes ces convoitises, puis alors maintenant, parce que c'est le dimanche, alors c'est pour toi Seigneur. 6 jours avec Satan, 1 jour avec le Seigneur. C'est pas cela. La vie chrétienne, c'est une vie de 24 heures sur 24 heures. Alors nous arrivons maintenant à ce grand événement qui est mentionné au verset. Quel verset? 11. Hein? La grâce de Dieu. Qu'est-ce qu'il est dit d'elle? La grâce de Dieu, qu'est-ce qu'elle fait? Elle apporte le salut. Et à qui est-ce qu'elle l'apporte? À tous les hommes. C'est ça qui est merveilleux. Il n'y a pas de prédestination à la damnation. La grâce de Dieu apporte le salut à tous les hommes. Et alors, ce salut, qu'est-ce que c'est? Je l'ai dit peut-être dans d'autres camps, la première fois que je suis venu au Québec, j'ai vu des prédicateurs qui m'ont dit, parce que j'étais un étranger, les choses que je devrais dire et celles que je ne devrais pas dire. On m'a dit, vous savez, au Québec, les âmes qui nous fréquentent nos milieux, eh bien, ne sont pas très cultivées, et il faut être content qu'elles aient compris le petit salut. Je vois qu'il y en a qui se souviennent. Le petit salut. Moi, ça m'a outré. J'ai dit, comment ? Moi, je ne connais pas le petit salut. Mais ici, il faut être content qu'elle soit juste sauvée. Qu'est-ce que c'est juste sauvée ? Ou bien vous l'êtes, ou bien vous ne l'êtes pas. Parce que qu'est-ce que la parole de Dieu me dit au sujet du salut ? Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut ? Hébreux chapitre 2. Reprenez la parole, chérissez-la, et que ce soit elle qui forme vos pensées, et vous aurez du discernement spirituel. Quelqu'un qui vous parle du petit salut, et puis qui vous dit que faut être content que ces âmes qui sont là aient compris le petit salut, eh bien, il est à côté de la plaque, à côté de la vérité. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Car c'est Dieu qui est la source du salut. Et qui est-ce qui est le salut ? C'est Jésus. Alors, quand vous dites le petit salut, vous dites le petit Jésus. Et puis, c'est bien ça, hein ? Pour beaucoup, on voit le petit Jésus dans le sein de la grande Marie. Et pourtant, j'aime Marie, puisque j'ai écrit un livre sur les leçons de Marie. Donc, ce n'est pas que je néglige Marie, mais Marie, eh bien, elle a dit son oui au Seigneur, elle est l'exemple pour moi de ce que je dois faire moi-même quand le Seigneur me parle et me touche et a besoin de ma vie pour le servir, comme Marie a été d'accord de donner son corps pour que le Seigneur puisse naître comme un homme au milieu des hommes et que tous puissent comprendre la volonté de Dieu qui n'était plus manifestée sur des pierres, les tables de la loi, mais manifestée dans la vie d'un homme. Et c'est cela que nous avons souvent souligné. Il y a eu une heure dans l'histoire de l'humanité où Dieu lui-même a été vu marchant et parlant sur la terre. Car il est dit, Dieu était en Christ. 2 Corinthiens, chapitre 5. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, ne leur imputant pas leur faute. C'est quelque chose de merveilleux. Dieu était en Christ. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, elle a été manifestée. Quand ? Quand est-ce que la grâce de Dieu a été manifestée ? Donc, la grâce a été manifestée dans le passé. On n'est plus sous la loi. Dieu avait donné à Israël la loi pour les conduire, parce que Israël prétendait que Dieu n'avait qu'à parler. Que Dieu parle, c'est ce qu'ils ont dit au pied du rocher du mont Horeb, de la montagne de l'Éternel. Ils ont dit, mais que Dieu nous dise ce que nous devons faire. Et ils prétendaient qu'ils pouvaient le faire. Alors Dieu leur a donné la loi. Vous voulez savoir ce que je veux ? Eh bien voilà. Et il a donné combien de commandements ? 10. Alors vous avez la loi des 10 commandements. Est-ce que ces commandements ont été vécus ? Non. De pécheurs que les hommes étaient, parce que le péché existait avant la loi, hein, ils sont devenus transgresseurs. Donc il y a eu une augmentation de culpabilité. Maintenant, ils savaient. Parce que Dieu avait donné des lois naturelles. Et les lois naturelles, les païens aussi les connaissent. C'est pourquoi il y a des païens qui ont été honoré par le Seigneur. Il a dit, je n'ai jamais vu en Israël une foi comme celle du païen. Hein. Il a honoré un païen qui n'avait pas la connaissance de la loi, mais qui vivait d'une façon, en regardant ce qui était dans le monde, comment Dieu avait fait les choses, eh bien, il a compris certaines choses. Alors, non seulement les lois naturelles nous enseignent, mais Dieu avait donné maintenant 10 commandements qui enseignaient d'une façon plus précise, mais ce n'était pas complet. On le voit bien quand Jésus reprend tous les commandements, il dit, la loi vous a dit, tu ne tueras pas, mais moi je vous dis que si quelqu'un se met en colère contre quelqu'un, il est déjà sur la voie du crime. Vous avez entendu dire que vous ne devez pas voler, mais si quelqu'un convoite quelque chose, il est déjà sur la voie du vol. Vous avez entendu dire, tu ne commettras point adultère, mais moi je vous dis que si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter dans son cœur, il a déjà commis adultère avec elle. Donc vous voyez, il y a un développement de la loi faite par le Seigneur. Alors, donc nous ne pouvons pas être justifiés sur le principe de la loi. Quand la loi a été donnée, elle a été transgressée. Et nous sommes devenus des transgresseurs. Et c'est pourquoi, si vous êtes sous la loi, ou si on vous remet sous la loi, on vous remet sous la malédiction. C'est ce que l'Écriture vous dit. Et tout enseignement qui voudrait vous remettre sous la loi, du « tu dois et tu ne dois pas », vous remet sous la malédiction. Et c'est ce que font spécialement les sectes. Et puis, dans la prédication, justement, quelqu'un qui veut se montrer, il aime à trouver quelque chose de soi-disant nouveau. Alors, il prend une partie de la Bible, et puis il tord, ou il ajoute, ou il retranche, et puis les gens se réunissent selon ce gourou-là, et puis ça donne ce que vous avez pu voir aussi bien au Canada qu'en Suisse et en France. Ces désastres où les âmes sont prises par ces gens-là. Or, la grâce de Dieu, elle est non pas une source de malédiction, mais une source de salut. Et le salut, c'est Jésus. Alors, le si grand salut nous a été manifesté dans le passé. La grâce nous a été manifestée quand Jésus est apparu dans ce monde. C'était la manifestation de la grâce. Où trouvons-nous cela dans l'Écriture? Dans Jean, au chapitre 1er, il y a ce prologue de Saint Jean qui est magnifique. Au commencement était la parole. Donc, avant la création, avant le commencement de la Genèse, qu'est-ce qu'il y avait? Le commencement de l'évangile de Jean. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Donc, avant la création, puisque il est dit au verset 3, tout a été fait par elle, donc par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme, puis il y a l'histoire de Jean-Baptiste. Mais quand vous arrivez au verset 11, parlant de la parole, cette parole est venue chez les siens. Les siens, c'était qui? C'était les Juifs, hein, qui avaient l'Écriture sainte. Et les siens ne l'ont pas reçu. Est-ce que Jésus a été reçu? Non. mais à tous ceux qui l'ont reçue, donc cette parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Qu'est-ce qui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu ? La foi en la parole. Et ceux qui deviennent enfants de Dieu, ce sont qui ? Ceux qui croient en son nom. C'est clair. Et qui sont nés, donc la nouvelle naissance, on apprend comment elle se fait, qui sont nés, non du sang. Donc, ce n'est pas parce que mon enfant avait un père chrétien que mon enfant sera chrétien. Ils sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Donc, pour être un enfant de Dieu, il faut avoir affaire avec Dieu. Ce n'est pas notre naissance physique qui fait de nous un enfant de Dieu. La parole a été faite chair. C'est ça l'incarnation. La parole a été faite chair. Ce que nous avons lu ici, la grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les hommes. Oui, elle a été faite chair. Elle a habité parmi nous. C'est la vie de Jésus sur la terre. Il a habité parmi nous. Et cette parole était pleine de grâce et de vérité. La vérité, elle est venue par Jésus-Christ. Et cette parole était pleine de grâce. Donc, la grâce a été manifestée, la grâce de Dieu qui apporte le salut a été manifestée. Et ceux qui l'ont reçu, eh bien, ils sont devenus enfants de Dieu. Verset 14, la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. Jean a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, qu'est-ce que nous avons reçu ? Grâce sur grâce. Toutes les grâces viennent de lui. Car la loi, alors vous voyez, la grâce et la loi. La loi a été donnée par Moïse, et c'était une bonne chose, la loi. Mais elle n'allait pas sauver le monde. Elle allait convaincre le monde de péché. La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par qui ? Par Jésus-Christ. Et il est ajouté, verset 18, personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Donc, il n'y a pas de réelle connaissance de Dieu en dehors de Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul, reprenant toutes ces vérités, les résume dans un passage que j'aime aussi beaucoup et qui marque notre vie, dans l'épître aux Colossiens. Il est dit ceci au sujet de Jésus-Christ. Verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, donc il est au commencement. Et tout subsiste par lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car, verset 19, il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude et de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix. Et au chapitre 2, je lis encore le verset 9, en lui donc, en Jésus, habite corporellement, quoi ? La plénitude de la déité, ou de la divinité. Ça veut dire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit habitent en qui ? Dans la personne de Jésus. Tout est en Jésus, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, si vous avez Jésus, eh bien, vous connaissez le Père et vous possédez aussi le Saint-Esprit. On ne divise pas Dieu en trois, mais on reconnaît qu'en lui, il y a cette triple personne, mais qui est Père, Fils et Saint-Esprit. En lui, si vous êtes en relation avec Jésus, vous êtes en relation, vous connaissez le Père, vous connaissez le Fils, et vous possédez le Saint-Esprit. Alors, dans le passé, la grâce donc est apparue à la naissance de Jésus. C'est l'apparition du salut par grâce quand Jésus est venu. Et vous jouissez du pardon de vos péchés. Mais qu'est-ce que nous lisons au sujet de la grâce ? La grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les hommes. Donc, tous les hommes peuvent être sauvés. Il n'y a pas d'exception. Tous pourraient être sauvés. Dieu n'a prédestiné personne à la perdition. Vous voyez, même le Pharaon, quand Moïse a dû aller témoigner auprès du Pharaon en lui disant qu'il avait rencontré l'Éternel et que l'Éternel lui avait dit ceci et cela, qu'est-ce que Pharaon a dit ? Qui est l'Éternel pour que j'écoute sa voix ? Vous avez cela dans le livre de l'Exode au chapitre 5e. Mais il a été averti. Chapitre 5 de l'Exode. Moïse et Aaron allèrent et dirent au Pharaon, « Ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve, célèbre une fête dans le désert. » Et le Pharaon dit, « Qui est l'Éternel pour que j'écoute sa voix ?» et que je laisse aller Israël. Et il a refusé. Et combien de fois est-ce qu'il a refusé ? Il s'est endurci 5 fois. Il a toujours refusé. Il a promis qu'il l'aiderait, puis il s'endurcissait. Et finalement, qu'est-ce qu'il a dit ? Et Dieu endurcit son cœur. On ne joue pas avec Dieu. Si vous refusez les appels de la grâce, il arrive un moment où Dieu dit, c'est fini. Mais vous avez eu l'occasion de vous tourner vers lui. C'est pour ça qu'il a dit la grâce qui apporte le salut à tous les hommes a été manifestée. Mais si vous ne voulez pas de cette grâce, qu'est-ce qui vous reste ? La condamnation. Parce que la première venue du Christ a apporté au monde le salut par grâce. Mais le salut par grâce, c'est un salut en quelque sorte en espérance. Nous sommes sauvés en espérance. Il nous a acquis un salut qui est tellement grand, qui est tellement total, que un jour, nous ne connaîtrons plus la souffrance. Nous ne connaîtrons plus tout ce qui vient des conséquences du péché. Car le Seigneur reviendra pour apporter le salut en gloire. Ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est le salut en grâce. Comprenez-vous ? Mais ce que nous attendons, c'est le salut en gloire. Et notre bienheureuse espérance, c'est c'est l'attente du retour du Seigneur qui apportera au monde la délivrance totale, le salut en gloire. Mais voilà, beaucoup de gens dits chrétiens pensent que c'est à eux de faire le nécessaire pour que le royaume puisse s'établir, ce royaume que Jésus n'a pas pu établir. Eh bien, ils vous disent maintenant que nous allons faire le travail et puis il y aura une telle amélioration que quand nous verrons que c'est bon, nous dirons à Dieu, tu peux venir. C'est ça que vous croyez? Tu peux venir maintenant, on a fait le boulot. Seigneur, tu peux venir. Que dit l'Écriture? Le salut en gloire, il sera apporté par le retour du Seigneur. Mais à ce retour, ce sera un jugement pour le monde, comme ça a été un jugement pour le Pharaon. Ceux qui seront perdus sont ceux qui n'ont pas voulu du salut et qui ont pensé qu'ils pouvaient faire, eux, le travail, contrairement à ce que l'Écriture dit. Alors, vous voyez que nous allons nous laisser enseigner. La grâce de Dieu qui apporte le salut, elle vous a apporté le salut. Vous avez le pardon de vos péchés. On reverra ça encore dans une autre union. Tout ce que le salut nous apporte. Et c'est à tous les hommes, car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est ce que vous lisez dans le chapitre 2 de la première épître à Timothée. Mais la grâce qui nous a déjà apporté le salut dans le passé, salut de nos âmes, délivrance des convoitises du monde, elles sont là, ces convoitises dans le monde, mais nous recevons une force pour pouvoir renoncer à ces convoitises parce que nous avons reçu quelque chose de meilleur. En Jésus, nous avons tout pleinement en Christ. La plénitude est en Jésus. Alors, la grâce de Dieu qui a apporté le salut dans le passé pour nous, elle nous enseigne. C'est ça qui est merveilleux. Depuis que vous êtes convertis, qui est-ce qui doit vous enseigner? Vous dites, oh, mais maintenant moi je suis sauvé, je n'irai pas en enfer, j'ai accepté Jésus-Christ. Mais accepter Jésus-Christ, ça veut dire vivre aujourd'hui avec Jésus-Christ, dans le monde. La grâce nous enseigne maintenant. Donc, vous voyez ce qu'est la grâce. La grâce, c'est quelqu'un. C'est qui? C'est Jésus. Vous devez arriver à cela. La grâce est une personne. Ce n'est pas simplement la bonté de Dieu, l'amour de Dieu. La grâce, c'est quelqu'un. Elle a été manifestée et je vois la grâce dans la personne de Jésus. De sa plénitude, je reçois grâce sur grâce. Toutes les grâces dont j'ai besoin, elles sont là dans la personne de Jésus. Alors pourquoi est-ce que nous n'allons pas à Jésus? Nous essayons de nous en sortir par nous-mêmes. Puis quand nous ne pouvons plus rien, alors tout d'un coup, on pense que Jésus pourrait peut-être nous aider. Alors, on revient à lui. Mais on a perdu beaucoup de temps. Vous m'avez abandonné. Moi, dit Jérémie, la source des eaux vives, vous m'avez abandonné pour vous creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Et là, on est en train de se fatiguer, de trouver des moyens pour plaire à Dieu, etc. Alors que pour plaire à Dieu, il suffit de venir à Jésus. Et Jésus nous inonde de sa grâce. Vous trouvez pas que c'est merveilleux? La grâce de Dieu est toujours là. Elle nous a sauvés, mais maintenant c'est elle qui nous enseigne. On n'est plus sous la loi du « tu dois » et « tu ne dois pas ». Parce qu'on n'a pas la force de résister. Alors, qu'est-ce qu'elle apporte, cette grâce? Elle apporte donc le salut à tous les hommes. Mais maintenant, elle nous enseigne. Alors, qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Alors, à qui est-ce qu'elle s'adresse? Elle nous a apporté le salut, puis maintenant elle s'adresse à ceux qui ont reçu le salut. Ceux qui ont reçu le salut, ce sont des gens qui vivent de la grâce de Dieu. Et c'est pour ça qu'ils sont dans la louange. Elle apporte le salut, mais ensuite, elle nous enseigne. C'est à nous qu'elle s'adresse. Et qu'est-ce qu'elle enseigne? Cette grâce. Dans le présent, nous ne sommes donc plus sous la loi, mais elle nous enseigne trois choses. Renier l'impiété, ne plus être de ceux qui vivent sans Dieu, mais qui sont conscients que Dieu est notre Père, qu'il nous aime, et nous sommes en relation avec Dieu. Reniant l'impiété, cette vie sans Dieu, qui est celle du monde. Dans le monde, maintenant, on n'ose plus parler de Dieu. Nous enseignons que reniant l'impiété et les convoitises mondaines. Alors, vous les connaissez, les convoitises mondaines? Elles sont résumées dans 1er épître de Jean, chapitre 2. C'est quoi? Convoitise des yeux. Convoitise de la chair. Convoitise de la chair d'abord. Convoitise des yeux. Et puis l'orgueil de la vie. C'est ça qui conduit le monde. C'est ça qui dirige les hommes. Eh bien, nous ne vivons pas de cette manière. Parce que nous savons que nous avons les choses plus excellentes en Christ. Nous renions les convoitises mondaines, convoitises des yeux. Nous ne suivons pas les regards de nos yeux. Nous voyons les choses, mais nous nous en jugeons. Et puis, elle nous dit comment nous devons vivre dans le présent siècle. Qu'est-ce que c'est le présent siècle? C'est aujourd'hui, c'est le temps présent. Donc c'est pour aujourd'hui. Alors la grâce a un enseignement pour aujourd'hui. Elle nous enseigne trois choses. À vivre sobrement. Donc dans la sobriété qui doit caractériser aussi un ancien. Sobriété en toutes choses. Pas seulement dans le boire, mais aussi dans le manger. Si vous mangez trop, moi je ne sais pas si c'est à cause de ce que vous mangez encore le soir après les réunions que certains sont devenus malades. Il faudrait peut-être faire attention. Parce qu'alors, évidemment, si vous mangez trop, qu'est-ce qui arrive? On n'assimile plus. Puisqu'on n'a pas assimilé, qu'est-ce qu'on en fait? On le rejette. Alors, attention. Soyez intelligent. Et sachant dire non à certaines choses. C'est pas pour vous empêcher de manger que je dis ça. Parce que vous voyez bien qu'on essaye de vous donner une bonne nourriture. Sobrement, donc en toutes choses. Pas plus qu'il ne faut. Puis alors, vivre justement. Sobrement, c'est pour nous-mêmes. La grâce a un enseignement pour moi-même, pour mon propre corps. Elle me montre que je dois être dans la sobriété en toutes choses. Pas l'exagérer sur une chose ou sur une autre. Puis, vivre dans la justice, ou justement, c'est dans mes relations avec les autres. La grâce me montre comment je dois vivre avec les autres, parce qu'on a des contacts les uns avec les autres. Eh bien, vivre dans la justice, c'est ne pas vouloir nous-mêmes avoir raison, mais nous dire, pourvu que le Seigneur ait raison, mais s'il ne comprend pas, bien, je le laisse, je m'en remets au Seigneur. La grâce m'enseigne, et je veux vivre dans la justice. Comme lui est juste. puis, dans nos relations avec Dieu, pieusement. C'est-à-dire, en tout temps, la grâce me rappelle, me ramène à Dieu. Voilà l'enseignement de la grâce. Trois choses. La sobriété, quant à nous-mêmes, la justice dans nos relations avec nos frères, et puis, la piété dans nos relations avec Dieu. Cultiver nos relations avec Dieu par la prière. Et vous savez, c'est une pensée qui monte au Seigneur. On peut avoir un temps de prière seul dans sa chambre, la porte fermée sur soi. On peut y passer même des heures s'il le faut. Mais ça ne se dit pas. On ne se glorifie pas d'avoir prié longtemps ou ceci ou cela. On vit sous un ciel ouvert. Et il est dit prier sans cesse. Alors ça peut être dans ma voiture, ça peut être dans mon travail. Tout à coup, on a une difficulté. Seigneur, tu sais, j'ai de la peine à ceci. Toi, tu connais, eh bien, instruis-moi. Alors, nous comptons sur lui. Ça, c'est donc dans le présent. Là, on a vu la grâce dans le passé, elle nous a apporté le salut. Le petit salut, non, un si grand salut, qui est donc dans tous les domaines. Puis, dans le présent, la grâce qui nous a apporté dans le passé le salut, elle nous apporte l'enseignement dont j'ai besoin quotidiennement. Et puis, pour l'avenir, qu'est-ce que la grâce va m'apporter ? L'espérance du retour de Christ. Verset 13, attendant la bienheureuse espérance. Et qu'est-ce que c'est que la bienheureuse espérance ? Qu'est-ce que c'est que cette bienheureuse espérance? Quelqu'un m'a dit l'autre jour, oh, j'ai regretté, vous aviez commencé par nous parler du retour de Christ, et puis après vous êtes revenu sur votre sujet, puis vous n'avez plus rien dit alors que je vibrais en pensant que vous alliez parler du retour de Christ. Bien, on ne peut pas tout dire, hein. Mais je pensais que le retour de Christ était une vérité bien connue, quoique c'est un mystère. Alors, prenons, qu'est-ce que c'est que cette bienheureuse espérance? Vous espérez mourir, hein? Réjouissez-vous, vous allez mourir. Il est réservé aux hommes de mourir une fois. Vous allez mourir. Réjouissez-vous. Assistez à votre enterrement. Écoutez ce que les gens disent de vous. C'est réjouissant. Hein? Puis comment on peut se tromper? Je me souviens, dans un de nos villages du Val-de-Rue où je suis né, il y avait le président de commune, comme on les appelait, le syndic. Il était mort. Puis le pasteur a dit devant la foule, « C'est maintenant que nous allons voir la perte que nous avons faite. » Une fois l'enterrement passé, quand on a examiné les comptes, il avait 400 000 francs suisses qu'il avait pris. Alors on a vu la perte qu'il avait faite. Il faut faire attention. Parce qu'on ne sait jamais ce qui se passe. Hein? Alors, gardons-nous dans la louange. Verset 51 du chapitre 15 de la première aux Corinthiens. C'est pas la mort que nous attendons. Voici, au verset 51. Voici, je vous dis, un mystère. Donc, c'est pas connu de tous. Nous ne nous endormirons pas tous, c'est-à-dire nous ne mourrons pas tous. Mais nous serons tous changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car la trompette sonnera, et les morts seront ressuscités incorruptibles. Tous nos morts qui sont morts dans le Seigneur, qui sont endormis en Jésus. Et nous, nous serons changés, car il faut que ce corruptible, c'est-à-dire nos morts qui se corrompent dans la poussière quant au corps, revêtent l'incorruptibilité et que ce mortel revête l'immortalité. Et quand ce corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et ce mortel aura revêtu l'immortalité, c'est pour nous les vivants, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie en victoire. Où est, ô mort, ton aiguillon, où est, ô sépulcre, ta victoire. Alors, voilà une annonce qui est faite. Hein. C'est un mystère. Tout le monde ne mourra pas. Comme Enoch n'est pas mort, mais a été enlevé. Comme Élie n'est pas mort, mais a été lui aussi enlevé. Hein. Il y a eu deux enlèvements qui annonçaient déjà l'enlèvement qui allait suivre non seulement celui du Seigneur, mais celui de ces hommes de l'Ancien Testament. Et puis, notre enlèvement est annoncé. Alors, prenons maintenant Thessaloniciens, Épître aux Thessaloniciens. J'étais amusé parce qu'il y a un petit garçon qui est venu vers moi hier. Puis il m'a dit, tu sais, hein, je sais rococo galefico tetete tititifi. C'était Jean-Samuel. Il m'a récité ça, comme ça. Il savait s'y retrouver dans les épîtres. Il est petit comme ça, il l'avait compris. Alors, dans Thessaloniciens, c'est la première épître. Vous lisez au chapitre 4, verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance à l'égard de ceux qui dorment. Qui sont ceux qui dorment? Les morts en Christ, hein, ceux qui sont morts dans le Seigneur. Afin que vous ne soyez pas affligés comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Il doit y avoir pour nous une consolation quand nous perdons un être cher. Car, et vous savez, quand je prêchais dans les églises catholiques, j'étais toujours réjoui par ça, parce que les gens venaient dans l'église catholique il y a quelques années avec leur Bible. Ils écoutaient ce que Paul VI avait dit, qu'il fallait venir avec sa Bible et que les prêtres devaient enseigner la parole. Mais il n'y avait pas beaucoup de prêtres qui connaissaient la parole, et c'est alors que les autorités catholiques m'ont demandé, puisque soi-disant on savait que je connaissais assez bien la parole, pour aller les aider, pour aller apporter le message au milieu d'eux. Et c'était des frères qui avaient tellement prié pour qu'un jour le Seigneur me permette d'aller apporter le message dans l'église même. Pas besoin de louer un local, hein, puisqu'ils ont une église. On peut très bien aller dans l'église. Mais je ne catholicisais pas. Bien sûr qu'on a dit cela. Qu'importe ce qu'on a pu dire de moi. Le Seigneur m'avait appelé. Alors, j'obéissais à l'appel. Verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance à l'égard de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas affligés comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Ils lisaient ça dans leur Bible, en écoutant mon message. Car si nous croyons que Jésus mourut, alors je m'arrêtais, puis je disais, est-ce que vous croyez que Jésus est mort? Bah, bien sûr, ils y croyaient quand même. Hein. Il y avait des croix partout. Bon. Et qu'il est ressuscité. Est-ce que vous le croyez? Bah, oui, il célébrait encore la résurrection. De même aussi, vous voyez, de même aussi, avec lui, Dieu amènera ceux qui sont endormis en Jésus. Donc, au moment de la résurrection des morts en Christ, les vivants seront transmués, comme nous l'avons vu dans le chapitre 15 de la première aux Corinthiens. Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous les vivants, vous voyez qu'il n'y a pas de contradiction dans la Bible, que nous les vivants, qui demeurons jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne devancerons aucunement ceux qui sont endormis. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange, avec la trompette de Dieu, descendra du ciel, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alors, quand on vient nous dire qu'il n'y a qu'une résurrection pour tout le monde, qui est la résurrection finale au jugement, c'est faux. Il y a une première résurrection, puis il y a une dernière résurrection. La résurrection des vivants et des morts en Christ, et puis ensuite la résurrection finale de ceux qui sont restés dans la mort, qui n'ont pas participé à la première résurrection. Bienheureux et saints ceux qui participent à la première résurrection. Donc s'il y a une première résurrection, il y a une résurrection finale. Les morts en Christ sont ressuscités premièrement. Puis, verset 17, nous les vivants qui demeurons, nous serons, quoi ? Ravis, enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur en l'air. Puis alors vous restez en l'air ? Hein ? Lisez la fin. Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. L'enlèvement a lieu, nous sommes rassemblés avec les morts en Christ, et le Seigneur nous conduit où ? Où est-ce qu'il a dit qu'il nous avait préparé une place ? Dans la maison du Père. Il disait à ses disciples avant de les quitter, chapitre 14 de Jean, verset 3, il leur disait, vous croyez en Dieu, mais croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. S'il en était autrement, je vous l'eusse dit, je vais vous préparer une place, et si je m'en vais, je reviendrai. Et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi avec moi. Et alors, à ce moment-là, quand le Seigneur revient, il revient en gloire, et nous serons avec lui. C'est cela que nous devons bien comprendre. Nous attendons maintenant la réalisation de cette bienheureuse espérance. Nous sommes toujours donc dans Tite, verset 13 du chapitre 2. Attendant la bienheureuse espérance, nous avons vu ce qu'il avait fait pour nous dans sa première venue, nous voyons ce qu'il est pour nous dans le temps actuel, dans le présent siècle, comment nous avons à vivre, la grâce nous enseigne, mais nous enseigne pour le futur, c'est que nous avons une bienheureuse espérance, c'est alors l'apparition de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nous. Alors quand il apparaîtra en gloire, son Église complète, c'est-à-dire tous les croyants qui auront été enlevés, seront avec lui, parce que le Christ total, ce n'est pas seulement la tête, c'est tous les membres du corps. Alors, il faut d'abord que les membres du corps de Christ soient réunis à la tête, et c'est à ce moment-là qu'il revient, et que le monde entier le verra. Et cela montrera, parce qu'il établira son jugement, son règne de justice, mais par le jugement. Et ce que vous voyez aujourd'hui, c'est que le monde mûrit pour le jugement. Hein? L'homosexualité devient légale. Tout est légalisé. Ce qui était écrit dans l'Écriture, qui était condamnable, maintenant ça devient légal. Alors, il y a un moment où Dieu dit, c'est assez. Souvenez-vous du déluge. Souvenez-vous de Sodome et Gomorre. Jésus a dit, quand il reviendrait, le monde serait dans l'état de Sodome et Gomorre. On ne se marie plus non plus. Hein. Encore au temps de Noé, on se mariait. Hein. On se mariait, on buvait, on mangeait, on bâtissait, etc. Au temps de Sodome, c'est encore pire, il n'y avait plus de mariage. On vivait comme on le voulait. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à ce temps-là, et il n'y a plus possibilité de changement. Hein. De sorte que quand il n'y a plus de possibilité de changement, quand Noé est entré dans l'arche, qu'est-ce qu'il a dit? Le déluge vint, elle les fit tous périr. Ils ont refusé. Ce n'est pas des gens qui ont perdu leur salut, c'est des gens qui ne l'ont jamais eu. Parce qu'avoir le salut, c'est avoir Jésus. C'est pourquoi vous avez raison de parler de Jésus à vos enfants. Nous attendons donc l'apparition du Seigneur en gloire. Quand il revient, tout œil le verra et ceux qui l'auront percé, mais ils sont jetés dans les temps de feu et de souffle. Nous attendons l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Verset 14, il s'est donné lui-même pour nous. Vous dites, ben oui, on le sait, il s'est donné pour nous sauver, mais qu'est-ce que c'est le salut? Afin qu'il nous rachetât de toute iniquité. Est-ce qu'il nous a sauvés pour que nous puissions continuer de vivre dans l'iniquité? Est-ce que ce n'est pas l'iniquité que vous voyez tout autour de vous? Est-ce que vous ne souffrez pas d'être dans un monde où tout est iniquité, tout ce qui était banni de Dieu, tout ce qui était dénoncé par Dieu, maintenant on le fait, le contraire de ce que Dieu veut. Parce qu'on ne croit pas que la Bible est la parole de Dieu. Mais on se fait baptiser, quand même. Parce que au cas où nous nous tromperions, il ne faut pas que nos enfants en pâtissent, alors on fait baptiser les enfants. Alors que dans la grâce de Dieu, nous aurons trois baptêmes, où vous verrez des jeunes qui prennent position et qui savent pourquoi ils le font et qui le disent et qui témoignent. Parce que, qu'est-ce que vous voulez qu'un enfant témoigne, un bébé? C'est pas le baptême qui va le sauver. Il est sauvé parce que la grâce de Dieu est là. Mais une fois que nous sommes responsables, nous devons prendre position pour le Seigneur. Il nous a sauvés pour nous racheter de toute iniquité et qu'il purifia pour lui-même un peuple acquis. Vous devez comprendre cela. Nous sommes un peuple acquis. Un peuple qui lui appartienne. Vous appartenez au Seigneur dans le temps présent, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Ce que je disais, si la foi n'est pas suivie des œuvres, qu'est-ce qu'elle est cette foi? Elle est morte. Et quand le jugement viendra, les disciples ont demandé, mais où est-ce qu'il frappera le jugement? Et j'étais là tout à l'heure, dans ma chambre, et je priais. Et puis, la parole, la réponse m'est venue comme cela. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Où est-ce que le jugement viendra? Là où est le corps mort, là s'assembleront les aigles. Le jugement viendra frapper là où est le corps mort. Et qu'est-ce que c'est le corps mort? C'est la profession sans la vie. C'est la profession chrétienne qui n'a pas la réalité. Là où est le corps mort, là s'assembleront les aigles. Ah, chers amis, c'est quelque chose. Le jugement va frapper dans la chrétienté. Ce n'est pas les croix qu'on voit sur les villes qui vont empêcher le jugement d'atteindre la chrétienté. C'est là que le Seigneur va parler. Alors, à ce moment-là, la bienheureuse espérance qui a été l'enlèvement, puis ensuite on est avec le Père, avec le Fils, et le Fils revient pour établir son règne de justice et de paix par des jugements. Alors, chers amis, verset 15, annonce ces choses. C'est ce que j'essaye de faire. Exhorte. C'est ce que nous voulons, dans ce camp, nous exhorter les uns les autres. Et reprend. S'il y a des erreurs, nous voulons les reprendre avec toute autorité de commander. Et puis, que personne ne te méprise. Voilà.